France Inter, il est 6h20, on va parler de la science, ce sont les s'aventuriers à présent avec vous. Fabienne Chauvière, bonjour.
Bonjour Eric.
On commence avec ces deux études qui confirment que l'emploi de certains insecticides tue les abeilles et d'ailleurs les insectes pollinisateurs en général.
Les apiculteurs mettent en cause depuis longtemps les néonicotinoïdes qu'ils appellent des tueuses d'abeilles. Les néonicotinoïdes agissent sur le système nerveux central des insectes. Ils tuent les indésirables, certes, mais aussi les insectes pollinisateurs. Une fondation très sérieuse s'est emparée de ce sujet qui est vraiment préoccupant.
La recherche, toute une aventure.
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité a été créée par tous les grands instituts de recherche. Elle s'est intéressée à deux articles qui ne laissent plus planer le doute quant aux effets des néonicotinoïdes sur les pollinisateurs. Hélène Soublet est scientifique, elle dirige cette fondation et pour elle, c'est sûr, c'est certain, les néonicotinoïdes sont des poisons.
Les abeilles ont nourri notre famille. Elles travaillaient pour la fabrique de conserve de mon grand-père. Dans ses vergers, elles pollinisaient les framboises, les poires, les abricots et même les cornichons.
Les deux études récentes qui ont été publiées dans un grand journal scientifique, Science, en juin dernier, ont montré que les néonicotinoïdes avaient des effets en conditions réelles, c'est-à-dire sur le terrain, sur les colonies d'abeilles notamment et sur les insectes pollinisateurs sauvages. Donc la première aux États-Unis s'est intéressée à ce qui se passait en fait dans des conditions où on a de la culture de maïs intensive.
Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Alors, les chercheurs?
Ils ont constaté effectivement que dans le cadre de l'étude, il y avait une mortalité qui était de 23% supérieure à la mortalité classique observée chez les colonies d'abeilles. Ce qui est énorme, 23% en fait de mortalité chez les butineuses, c'est-à-dire des abeilles qui vont participer à nourrir la ruche. Et si les ruches ne peuvent pas se nourrir, en fait ce qui va se passer c'est qu'elles ne passent pas l'hiver. Et on a des mortalités constatées au printemps par les apiculteurs.
Hélène Soublet, vous nous parlez des abeilles domestiques, mais il n'y a pas que les abeilles domestiques quand on parle des insectes pollinisateurs.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est plutôt la seconde étude qui s'est passée cette fois-ci en Europe, dans les pays Hongrie, Allemagne et Royaume-Uni. Là, les chercheurs ont étudié à la fois ce qui se passait chez l'abeille domestique et sur deux espèces de pollinisateurs sauvages. L'étude a prouvé qu'en Hongrie, chez les bourdons, donc une espèce sauvage, il y avait une baisse de la capacité des bourdons à produire des rennes.
Et la question que je vous pose maintenant, Fabienne, est-ce que ces néonicotinoïdes sont très utilisés?
Ils représentent un tiers des insecticides qui sont utilisés dans le monde. Ils sont interdits aux particuliers en France et les agriculteurs ne devraient plus pouvoir les utiliser sur notre territoire à partir de 2018, avec des dérogations jusqu'en 2020. Malheureusement, leur effet toxique va perdurer dans la nature pendant longtemps.
Notre alimentation en dépend. Une grande partie de ce que nous consommons à base de fruits ou même les légumes comme les courgettes, les aubergines sont pollinisées. Mais également, il y a aussi des problèmes sur la santé humaine parce que ces molécules sont ce qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire qu'elles sont mises sur les graines et elles vont se diffuser partout dans la plante. Vous allez en retrouver dans les feuilles, vous allez en retrouver dans les fruits et vous allez bien sûr en retrouver dans le pollen et le nectar. En 2013, l'Autorité européenne de sécurité des aliments avait déjà mis en évidence un certain nombre d'effets sur l'homme. Donc, par exemple, affectation du développement des neurones et des structures cérébrales chez l'humain. Donc, ce sont pas des petits effets.
Et comment vous choisissez vos sujets?
Nous choisissons les sujets en fonction de l'actualité scientifique. Nous choisissons aussi nos sujets parce que un grand nom scientifique a réussi une avancée majeure par rapport à ce qu'on appelle, nous, les fronts de science, c'est-à-dire des questions qui étaient restées en suspens, des questions scientifiques auxquelles personne, pour l'instant, n'avait répondu.
Et votre prochain sujet?
Le prochain sujet concernera l'impact des renards sur la maladie de Lyme. Et les chercheurs se sont rendu compte que plus il y avait de renards dans un écosystème, moins il y avait de maladies de Lyme.
Voilà, très intéressant. La maladie de Lyme sera donc le prochain compte-rendu de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité.
Et on a bien saisi le message, donc sauvons les abeilles. Merci Fabienne Chauvière. Il est 6h24 sur France Inter. Patricia Martin, bonjour.
Bonjour Éric Delvaux.
Comme chaque samedi, on a un aperçu avec vous à cette heure-ci des expositions un peu partout en France. Cela dit, ce matin, avec l'aide de Corinne Pellissier, la chef du service culture de France Inter, on va plutôt faire un tour d'horizon des expos à venir.
Ben oui, vous savez Éric, entre les tableaux en ce moment qu'on décroche et puis ceux qui sont encore dans les cartons, on est un petit peu dans un entre-deux, mais tout de même, il y a de quoi se réjouir. Bonjour Corinne Pellissier. Bonjour, Corinne Pélissier du service culture de la rédaction de France Inter. Et on va discuter ensemble des temps forts de la rentrée, des expositions qu'il faut voir absolument, de la photo, de la musique, de la peinture classique. Il y en a pour tous les coups.
Oui, c'est vraiment une très belle rentrée, très riche, très variée, avec des événements attendus parfois depuis longtemps. C'est le cas des deux musées Saint-Laurent à Paris, dont les locaux de la Fondation Pierre Berger, et à Marrakech. Tous les deux consacrés à l'œuvre du couturier, des dizaines de milliers de croquis, des planches de collection. Évidemment, tous les vêtements designés par Saint-Laurent, tout est archivé depuis l'ouverture de sa maison de couture en 61. C'est vraiment l'un des grands temps forts de la rentrée pour les passionnés de mode.
Alors, passionnés qui ne pourront pas rater non plus la première grande rétrospective consacrée au photographe Irving Penn.
Elle démarre jeudi prochain au Grand Palais. Des centaines de photos qui ont été prêtées par le Metropolitan Museum de New York pour rendre compte de la précision de sa technique, balayer les temps forts de sa carrière. Évidemment, il y a la mode avec des tas de photos pour Dior, pour Balenciaga, le magazine Vogue aussi, pour lequel il a travaillé pendant près de 60 ans. Pour la petite histoire, il est le photographe qui détient le record du plus grand nombre de couvertures pour le magazine. Il en a réalisé plus de 160, toute une série de portraits aussi, des nus, des petits métiers, son travail autour des mégots de cigarettes. C'est vraiment le coup de cœur de la rentrée, avec une maîtrise du noir et blanc qui est incroyable et d'autant plus étonnante que la plupart des photos étaient prises à l'origine en couleur et c'est au moment de l'impression qu'il est retravaillé pour lui en noir et blanc. C'est vraiment, Irving Penn, l'instinct du sculpteur, la recherche permanente autour des visages, des silhouettes. Et puis, cerise sur le gâteau, vous pourrez découvrir le rideau de studio avec lequel il travaillait. Un long rideau gris patiné par le temps.
Il doit être mité, non, maintenant
non, qui a vu défiler tous les plus grands, de Picasso à Colette, en passant par Alfred Hitchcock ou Marcel Duchamp.
Jusqu'au 29 janvier prochain. Autre exposition très attendue aussi, le musée d'art moderne de New York, le MoMA, qui investit la Fondation Vuitton.
Alors, c'est un événement parce que c'est le MoMA qui débarque avec 200 pièces qui ont été choisies spécialement pour représenter la modernité d'un musée qui se renouvelle en permanence. Vous aurez donc au milieu des œuvres inédites de Warhol ou de Barbara Kruger, bien des tableaux de 2016. Et puis, la Fondation doit désormais tenter de battre son propre record. 1 200 000 visiteurs pour la collection de Shukin l'an passé. C'est le plus gros succès depuis l'exposition Toutankhamon au Petit Palais en 1967.
Et très attendu aussi, François 1er au musée du Louvre, une exposition consacrée à Gauguin en octobre au Grand Palais, en plus de la sortie d'un film avec Vincent Cassel dans le rôle-titre. Mais bon, la plupart de ces expositions ne sont pas encore visibles, il faudra donc patienter jusqu'au mois d'octobre. Alors pour celles et ceux qui souhaitent s'en mettre plein les yeux dès ce week-end, qu'est-ce que vous nous conseillez, Corinne ?
Eh bien ce week-end, ce sont les journées du patrimoine, c'est gratuit, des événements partout en France. Vous pouvez même venir visiter la maison de la radio, hein, là tout de suite maintenant, et vous rendre juste après au musée Marmottan, c'est juste à côté, pour découvrir les trésor caché de Claude Monet, la collection personnelle et secrète de tableaux qu'il conservait dans sa chambre à Giverny. Il a fallu 4 ans d'enquête pour réunir toutes ses œuvres qui lui avaient été offertes ou qu'il avait achetées. Rodin, Cézanne, Pissarro, il achetait typiquement ce que lui ne faisait pas. Chez Renoir, par exemple, il avait choisi des nus. Il était vraiment très ouvert au nouveau courant de l'époque. Il avait cette volonté de ne pas rester centré sur son travail. C'est vraiment une exposition dans l'intimité de Monet.
C'est jusqu'au 14 janvier. Puis on termine avec un dernier conseil pour les amateurs de musique. C'est une grande exposition consacrée à Maria Callas, à la scène musicale.
Énorme travail là encore, hein, sur la scénographie. On a l'impression d'être avec elle dans ses appartements, de l'entendre chanter comme si c'était hier. Évidemment, beaucoup de documents, d'archives inédites. Et un petit clin d'œil à France Inter, Maria Callas invitée du Pop Club de José Arthur.
Le célèbre Pop Club de José Arthur. Merci à toutes les deux.